7h17, cannabis qu'ont changé les politiques de légalisation. Depuis lundi, acheter du cannabis pour un usage récréatif est autorisé en Californie. Après l'Alaska, le Colorado, le Nevada, l'Oregon et l'État de Washington, c'est le 6e État américain où la légalisation de la vente de produits à base de cannabis entre en vigueur. Bonjour Ivana Obradovic, vous êtes directrice adjointe de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Alors tout d'abord, il est utile de distinguer parmi trois termes qui sont souvent mélangés, dépénalisation, légalisation, libéralisation.
Bonjour. Alors effectivement, c'est des notions qui sont souvent confondues dans le débat public. Ce qu'il faut savoir, c'est que dépénaliser, en gros, c'est réduire les sanctions pénales ou les supprimer. Les sanctions pénales qui sont prévues par la loi pour décourager un comportement. Donc ça veut dire que ça recouvre un large spectre d'options qui vont d'écarter la possibilité de peine de prison, comme c'est le cas en France aujourd'hui, par exemple, pour usage simple de cannabis, transformer un délit en contravention, ce qu'on appelle la contraventionnalisation, c'est-à-dire passer d'une infraction pénale à une infraction administrative, et ça peut aller aussi jusqu'à supprimer tout simplement l'interdit, donc légaliser, comme l'ont fait un certain nombre d'États depuis 5 ans à peu près aujourd'hui.
Alors aujourd'hui on commence à avoir du recul, donc des États-Unis à l'Uruguay où l'usage de cannabis est légal, en passant par le Portugal qui en 2000 en a dépénalisé l'achat. Que diriez-vous avec du recul, vous qui êtes Ivana Obradovic, directrice adjointe de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies?
Alors, on a mené une étude sur le sujet pendant 3 ans, dans les 2 premiers États américains qui ont légalisé le cannabis récréatif, le Colorado et l'État de Washington, et en Uruguay également. Donc, ce qu'on voit en particulier aux États-Unis, où on a un modèle qui est très favorable aux acteurs privés, un modèle commercial, pour aller vite, ce qu'on voit d'abord, c'est qu'en termes de santé publique, on n'assiste pas à la catastrophe sanitaire qui était prédite par certains. C'est-à-dire qu'on a une stabilité de la consommation parmi les mineurs, il n'y a pas eu d'explosion, clairement. En revanche, ce qu'on voit, c'est que le risque perçu à fumer du cannabis est en baisse. Donc clairement, l'acceptabilité sociale du cannabis parmi ces mineurs semble en progression. Ce qui est quand même un facteur d'alerte quand on connaît les risques qui sont liés à l'usage précoce de cannabis. Ce qu'on voit aussi, c'est que le modèle mercantile a favorisé une diversification de l'offre. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de produits à base de cannabis, notamment des produits comestibles, qui sont ceux qui ont été à l'origine d'intoxication aiguë et de recours aux urgences.
Donc cette fumer le cannabis avec du tabac, ça n'est pas non plus particulièrement recommandé.
Alors ce dont je parle, moi, c'est plutôt le vapotage de cannabis, c'est des nouvelles pratiques de consommation comme le dabbing par exemple, qui consiste à fumer un peu à la manière de l'opium, une huile ou une cire de cannabis qui est très concentrée avec des effets puissants et intensifs et immédiats. Donc voilà, ces nouvelles pratiques à risque, elles suscitent quand même un peu d'intérêt, de préoccupation au niveau des pouvoirs publics.
L'un des arguments contre la dépénalisation, c'est celui de la fameuse pente glissante. On commence par fumer du cannabis et puis ensuite on prend de l'héroïne, etc., etc. Qu'est-ce que vous voyez, vous, sur le terrain ?
Alors, cette théorie de l'escalade, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, elle est réfutée depuis la fin des années 70. Et par ailleurs, c'est une logique qui n'est pas si logique, puisque on pourrait aussi dire que les usagers d'héroïne ont tous commencé par fumer du tabac. Donc effectivement, le cannabis est peut-être la première drogue illicite par laquelle on entre dans ce type de consommation. Néanmoins, on voit bien qu'il y a des fumeurs de cannabis qui s'en tiennent au cannabis et qui ne diversifient pas forcément leurs pratiques. Donc, sur un plan scientifique, c'est pas une théorie qui est très sérieuse.
Vous l'invalidez. Autre question qui est souvent débattue à ce sujet, on explique que les jeunes finalement se détourneraient du cannabis quand il serait légalisé parce que eux chercheraient des produits transgressifs et donc ils iraient par exemple vers les drogues chimiques qui aujourd'hui pullulent sur Internet. On le constate ?
Pas vraiment. Là aussi, c'est une explication un peu mécanique. En fait, tout ce raisonnement se base sur une idée reçue qui est quand même assez largement démentie par les faits, qui est que la législation influe sur les niveaux de consommation. Or, quand on regarde ne serait-ce qu'en Europe, la France et la Suède, on a une législation qui est à peu près aussi sévère dans ces deux pays. Et la France est parmi les consommateurs les plus importants de cannabis en Europe, la Suède parmi les moins importants. Donc on voit bien que c'est pas la législation qui influe, c'est plutôt les conditions de l'offre, est-ce qu'elle est accessible, est-ce que le cannabis est peu cher, et puis les facteurs culturels, l'acceptabilité.
Justement, parmi les facteurs culturels, parmi l'acceptabilité, est-ce que dans tous ces pays, qui sont des pays, encore une fois, très différents les uns des autres, où le cannabis a été dépénalisé, est-ce que vous voyez de grands débats? Est-ce que finalement, ça a fait scandale?
Ça a été scandalisé au départ. Ce qu'on voit quand même, c'est que il n'y a pas de bouleversement majeur dans la pratique. Ce qui va être intéressant, c'est à partir du mois de juillet de voir le modèle qui sera mis en place au Canada. Mmh. Donc il y a 10 provinces qui vont développer des modèles assez différenciés, sans doute 10 modèles différents. Mmh. Donc là aussi, comme il y a une attention particulière à la santé publique au Canada, une attention historique aussi à l'articulation entre les soins et la justice, ça sera un modèle qui, du point de vue européen, sera particulièrement intéressant à surveiller.
D'autres arguments invoqués, alors là on quitte le terrain sanitaire pour aller vers le terrain économique, on explique que cela crée des industries qui sont extrêmement profitables avec un véritable business qui tourne à plein régime.
Alors c'est ce qu'on voit effectivement dans les États américains qui ont légalisé. Il y a un boom économique, un cannabis-ness qui s'est développé très rapidement avec des boutiques spécialisées du cannabis qui ont fleuri. Au Colorado, par exemple, il y en a plus que des Starbucks ou des McDo. C'est un rapprochement qui est souvent fait. On a un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de dollars par an dans chacun des deux États, le Colorado et l'État de Washington, des milliers d'emplois à la clé. Mm-hmm. Donc effectivement, cet effet économique, financier, industriel, il est très clair, avec des marges de rentabilité très importantes, de l'ordre de 20 à 30%. Et puis, surtout, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un marché qui a été saisi par des entrepreneurs en col blanc. C'est-à-dire qu'ils profitent aux classes les plus aisées, qui vont acheter leur cannabis sécurisé dans des boutiques spécialisées. Mais il reste quand même un marché noir assez important. Et les usagers les plus défavorisés continuent de s'approvisionner sur le marché noir avec un cannabis qui n'est pas de qualité, entre guillemets.
Ça veut dire que finalement, les anciens délinquants, donc, qui étaient dans l'illégalité auparavant de manière évidente, ils se sont pas respectabilisés en se lançant dans ce nouveau business.
Ils n'ont pas vraiment profité de cette dynamique, non. On peut pas le dire. C'est tout sauf des hippies, les entrepreneurs du cannabis aux États-Unis. C'est des gens diplômés qui ont un business plan.
Ce ne sont pas d'anciens dealers
de rue parmi ces entrepreneurs.
Et alors, que sont devenus ces délinquants qui jadis vivaient de la vente du cannabis?
Ils en vivent toujours, pour une partie, et puis ils ont diversifié leurs activités aussi. Donc ça, c'est un phénomène qu'on va essayer de suivre dans les années qui viennent, puisque
dans quel
on peut imaginer qu'il va y avoir des évolutions dans la physionomie de la criminalité. L'idée de diversifier l'offre de produits, aller vers l'héroïne, la méthamphétamine aux États-Unis, en Uruguay sans doute d'autres produits aussi, puisque pour le coup, en Uruguay, la légalisation, elle a répondu vraiment à l'objectif de casser la consommation de ce qu'on appelle la pasta basse, qui était consommée avec du cannabis, qui est une forme de cocaïne basée.
Merci beaucoup, Ivana Obradovic. Vous êtes directrice adjointe de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies.